Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. Il y a presque 4 ans, jour pour jour, le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s'immolait par le feu devant le siège du gouvernorat de la ville de Sidi Bouzid en Tunisie. Un geste de désespoir en guise de protestation ultime pour ce jeune vendeur ambulant de 26 ans à qui les employés municipaux avaient retiré le seul gagne-pain en saisissant sa marchandise. Ce geste allait déclencher ce que l'on appelle désormais la révolution de Jasmin, une révolution pacifique qui a abouti au départ du dictateur Zine El Abidine Ben Ali, resté au pouvoir pendant près de 25 ans grâce au soutien notamment de nombreux États occidentaux. 4 ans après le déclenchement de cette révolution, où en est aujourd'hui la Tunisie? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce soir en présence de nos deux invités, Habib Kazdagli, doyen de la faculté de lettres de l'université de la Manouba, et Nadia Kiari, caricaturiste, membre du collectif international Cartoonist for Peace et auteur, maman même je dirais, de Willis from Tunis, un petit chat espiègle que vous connaissez peut-être. Madame, monsieur, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nadia Kiari, on présente souvent ici en Europe l'enjeu politique de la jeune démocratie tunisienne post-Ben Ali comme une opposition entre laïcs et islamistes. Est-ce que c'est une grille de lecture pertinente selon vous ou est-ce que cela appelle un petit peu plus de nuances?
C'est un peu caricatural, oui, en effet, parce que cette guéguerre qu'on veut cataloguer entre laïcs et islamistes, moi je la vois pas dans la vie de tous les jours. En tout cas, dans ma famille, il y a des gens de tous bords, il n'y a pas forcément des laïcs ou des islamistes. Il y a des musulmans, plus ou moins. Et le but, c'était de se libérer d'une dictature. C'était pas de diviser les gens entre bons et mauvais musulmans ou laïcs. C'était pas ça le but. À la base, cette révolution était faite contre la corruption, contre l'oppression, contre la censure. On n'a pas parlé une seule seconde de cette question de la laïcité, mais c'est après l'arrivée du leader, entre autres, du parti Ennahda, du parti islamiste, que ce débat a commencé, que cette division entre les gens a démarré.
Habib Kazdagli, les dernières élections législatives ont justement débouché sur un sensible recul du parti religieux conservateur Ennahda, dont Nadia Kiari vient nous parler, au profit de formations politiques qualifiées de laïques. Est-ce que ça témoigne selon vous d'une adhésion populaire aux valeurs de la laïcité en général, aux droits fondamentaux, ou faut-il l'interpréter autrement?
Oui, j'ose devant une caricaturiste, puisqu'elle utilise le mot, que ce n'est pas exactement cela. C'est, évidemment, ça révèle les résultats, contrairement aux élections de 2011. Évidemment, on ne conteste pas du tout que c'était des élections démocratiques, même celles de 2011, mais elles n'avaient pas donné la Tunisie qu'on espérait. C'est-à-dire que la Tunisie n'est pas ce parti de 90 députés, le parti islamiste. La Tunisie, c'est la modernité à qui il y avait un déficit réel au niveau des libertés. Donc, et aussi cette corruption galopante à l'époque, mais aussi que le parti islamiste n'a pas su empêcher, puisque les gens disent maintenant que la corruption a doublé, triplé pendant 3 ans et a fait accumuler donc des taux de corruption supérieurs à ce qui a été fait en 23 ans de pouvoir de Ben Ali et de sa famille. Donc pour dire que aujourd'hui les dernières élections ont exprimé cette réelle Tunisie où il y a un courant bien ancré, celui de la modernité, et évidemment il y a un courant conservateur. Le parti islamiste a eu 69 sièges. Une légère avancée réelle qui montre que la Tunisie se remet ou sort un peu de ses doutes. Parce que la révolution, comme dans tous les pays qui la connaissent, il y a une période
de
balbutiement, ou bien ça bascule un peu partout. Mais ces dernières élections montrent un peu cette Tunisie à la fois attachée à son modèle sociétal, mais en même temps qui veut respecter tout le monde, y compris un fort courant encore, qui est le courant conservateur. Mais je dirais, j'ai à chaque fois au CAL ou bien avec les auditeurs belges, j'ai expliqué un peu le contenu de la laïcité en Tunisie. Tunisie. Donc tout ce qui concerne.
On va peut-être revenir là-dessus juste après, si vous voulez bien. Je voudrais réentendre Nadia Kiari, justement, et peut-être la faire réagir. Donc si je vous entends bien, Habib Kazdagli, vous nous dites que la grosse ligne de fracture qui sépare les électeurs tunisiens ne se situe pas tant entre des laïcs d'un côté et des islamistes de l'autre, mais plutôt entre des progressistes, des modernistes d'un côté et des conservateurs. Nadia Kiari, vous vous retrouvez sur cette ligne de fracture ?
Ah oui, oui, complètement. Le gros problème, à la limite, c'est pas que... En fait, dans la séparation entre la religion et l'État, c'est surtout qu'il y a un parti qui s'est érigé en religion, qui dit si tu t'attaques à moi, tu attaques l'islam.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et ça, c'est le gros problème. C'est quand la religion rentre dans la politique et peut-être pas l'inverse. Donc, un ministre des Affaires religieuses a dit que saccager un local d'Ennahda, donc du parti islamiste, c'était l'équivalent de saccager une mosquée. Et ils n'ont pas arrêté de scander ce genre de propos où on considérait que ce parti était une religion, était l'islam, alors que ce n'est qu'un parti politique qui instrumentalise la religion et qui continue.
Alors justement, l'un et l'autre, quelle est votre vision de la laïcité ? Comment décrivez-vous cette notion, Nadia Kiari ?
Je pense que la religion, c'est de l'ordre de l'intime et que chacun est libre de pratiquer sa religion sans l'imposer à l'autre et qu'à partir du moment où un parti... majoritaire veut imposer sa manière de voir à tout le monde, ça passe pas. On est chacun libre de pratiquer comme on le veut ou de c'est une quête spirituelle qui devrait être intime normalement. Et là, le mettre sur la place publique, je trouve que c'est l'exhibitionnisme et que ça me plaît pas et ça ne doit pas rentrer dans la politique. Les problèmes de la Tunisie ne sont pas là, ne sont pas dans le culte.
Habib Kazdagli ?
Oui, nous avons eu beaucoup de discussions dans toute la crise qu'a traversé ma faculté. Est-ce que le problème, c'est parce qu'à chaque fois, ces mêmes personnes essaient de présenter comme si la laïcité était une lutte contre la religion. Mais c'est pas du tout, on n'entend pas les choses de cette manière. Mais que la religion, elle a toute sa place. Mais pas c'est-à-dire dans les mosquées comme foi, comme une spiritualité. Chacun est libre de... Mais qu'au nom de la religion, on va diriger une faculté ou bien un cours ne doit pas être fait de telle manière parce que il est contraire à la religion. Bien évidemment, la Tunisie elle a séparé les choses depuis bien longtemps. Il y a tout un courant qu'on appelle réformiste depuis le 19e siècle qui a essayé de faire la part des choses. Donc, nous sommes dans un pays musulman, mais la chose publique est gérée par un État. Donc il n'y a pas d'opposition à faire. Donc on peut dire que chacun a sa sphère. Donc il y a la sphère des spiritualités et des spiritualités au pluriel, parce que je ne voudrais pas que ce soit compris qu'une seule spiritualité, parce que même si la religion majoritaire est l'islam, mais il y a d'autres religions. Il y a des juifs, il y a des gens qui sont de libre pensée, mais et la constitution est venue consacrer cela. Donc l'article 6 est bien clair sur la liberté de conscience.
Mais vous nous dites que la laïcité est parfois perçue comme étant un mouvement contre la religion. Est-ce que ce n'est pas là quelque part un héritage aussi de ces décennies Ben Ali, un régime qui était apparenté, assimilé à un régime laïque ? Est-ce que justement cet apparentement à la laïcité de ce régime qui était une dictature, il faut bien le rappeler, n'est pas de nature à brouiller le message de la laïcité auprès du public, de l'électorat, Nadia Kiari ?
Évidemment, vu qu'il y avait une oppression à ce niveau-là, les gens qui s'opposaient à Ben Ali, forcément, parmi ces gens-là, il y avait aussi Ennahda. Et donc forcément, moi je suis contre toute forme d'oppression, d'interdiction, et le fait d'interdire va renforcer encore plus les convictions. Mais je pense que c'est aussi le fait que, en Tunisie, les gens sont quand même assez conservateurs en règle générale. Moi, je le vois par rapport aux réactions de tout ce qui s'est passé depuis 4 ans. Il y a quand même un conservatisme assez puissant, toute classe sociale confondue.
Toute région confondue ?
Ah oui, oui.
Se compris dans les grands centres urbains ?
Oui, 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 même dans la bourgeoisie, comme on peut le dire. Oui, les gens sont assez conservateurs et donc ont une position par rapport à des questions d'ordre moral qui peuvent être assez rigides. Par exemple, lorsque Meriem, la jeune fille qui s'est fait violer par les policiers, elle a été trouvée avec son fiancé dans une voiture le soir et des agents de police l'ont violée. Ben, ce que j'entendais un peu partout, c'était, bon, ben, elle a bien cherché. Comment une fille qui n'est pas mariée, etc., traîne dans la rue, etc. Mmh. Et là, je vois qu'il y a un conservatisme. Et bon, ça me révulse parce que on ne remet pas en question le fait qu'elle soit violée. C'est l'inverse, c'est cette femme. Et justement, en tant que femme, c'est d'autant plus pesant ce genre de questions où voilà, on est assez conservateur et la place de la femme, c'est difficile d'évoluer quoi. On passe notre temps à lutter pour garder les acquis qu'on a au lieu de lutter pour en avoir de nouveaux.
Ce qui se dit parfois ici en Europe au sujet de la Tunisie, c'est que c'est justement un peu l'État peut-être le plus progressiste du monde arabe en matière de droits égaux hommes-femmes, par exemple. C'est un constat que vous partagez, ça, quand même, Habib Kazdagli. C'est une erreur de le concevoir comme ça?
Non, c'est au niveau des avancées, oui, c'est ce qu'elle vient de dire. Donc, réellement, l'État national, au lendemain de l'année de la lutte coloniale, a donné un contenu social avancé au niveau de l'enseignement, au niveau de la libération de la femme, au niveau de l'avortement, tout ça. Donc il y a une réelle liberté au niveau juridique, mais qui, au niveau social, des fois, ne suit pas.
Comment ça se fait, alors?
C'est-à-dire que c'est évidemment...
Enfin, je vais vous poser la question de façon très, très provocante, mais est-ce que le Tunisien est intrinsèquement conservateur ou est-ce que ça repose sur autre chose?
Non, c'est-à-dire qu'il est plutôt... il a un certain... Comment on dit? Un arrangement social. C'est-à-dire que c'est à la fois... Il n'aime pas les excès. Donc, c'est pour lui, c'est les excès, comme elle vient de le dire. Donc, c'est bon. En fait, c'est des rumeurs qui ont été lancées par la police pour cacher un peu le mobile réel. Si on revient, s'il y a viol, c'est tout simplement parce que ce sont les femmes qui se mettent un peu à l'excès au niveau de leurs habits. Mais en fait, les femmes sortent, mais c'est-à-dire, il faut toujours respecter une certaine un arrangement social. Mais sinon, au niveau de la c'est-à-dire des avancées réelles au niveau de l'égalité, au niveau des textes, même s'il reste encore des choses à faire, mais et la preuve que au début il y avait un certain ils étaient favorables, donc ils avaient un préjugé favorable, les islamistes, parce qu'on se disait il y a de la corruption, peut-être parce qu'ils croient en Dieu. Donc
ils seront plus vertueux.
Ils seront un peu plus vertueux, mais au bout de 3 ans, démocratiquement, sans coup d'État, sans violence, au contraire, la violence était venue peut-être du côté de ceux qui se présentaient comme croyants, ou plus croyants que les autres, les Tunisiens, tout simplement, le parti, le succès de Nida Tounes est avant tout une expression, pas du parti lui-même, Nida Tounes, donc parce que ce n'est pas un grand parti qui est connu, ça ne fait que 2 ans, mais en tout cas, il a pris cet espace parce qu'il s'est exprimé une trame forte au niveau de l'électorat qui ne veut plus croire à cette thèse que, voilà, nous sommes des musulmans, ou la majorité des musulmans, mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'on va juger, ce n'est pas entre bons musulmans ou mauvais musulmans, alors que ça a marché. Cette idée-là, ça a marché un peu au niveau des élections de ou bien laïque ou pas laïque. Donc c'est dans ce cadre-là que la laïcité a été évoquée comme quoi c'est une forme prêtée par des gens pour lutter contre la religion. Et d'où on a saccagé une salle de cinéma à l'Africa à cause d'un film qui se dit de Nadia Fani, etc. Alors que le problème, c'est
laïcité, Inch'Allah.
Inch'Allah, etc.
Je voulais dire une chose par rapport à la place de la femme dans le monde arabe. J'ai fait une rencontre il y a un mois avec des militantes qui venaient du Kurdistan, d'Iran, Yémen, Bahreïn, Égypte, Libye, etc. Toutes ces femmes qui militaient justement. Et ce qui revenait en général, toutes ces femmes me disaient en Tunisie, elles découvraient la Tunisie d'ailleurs lors de cette rencontre, elles me disaient, déjà vu de l'extérieur, elles ont une grande admiration pour la Tunisie et pour les acquis des femmes et justement de ce déroulement de cette révolution. Et elles me disaient, on compte sur vous, ne vous plantez pas. Parce que bon, nous, c'est difficile et le seul espoir qu'on a, c'est en vous observant. Et si vous vous plantez, on perd tout espoir et on arrête la lutte. Donc, on a une grande responsabilité à ce niveau-là. Et j'ai conscience du fait qu'on est quand même une exception dans le monde arabe parce que dans notre constitution, il est écrit noir sur blanc que les hommes et les femmes sont égaux au prix quand même d'une lutte de plusieurs mois où on a voulu nous imposer.
On a parlé de complémentarité à un certain moment.
Et même d'égalité juste dans les responsabilités, etc. Mais bon, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, dans la réalité, on est loin de tout ça. Mais Voilà quoi,
c'est une base de départ.
Voilà, c'est une bonne base et on espère que voilà, dans le reste du monde arabe, ça va suivre.
Bien, je vous propose à présent de faire peut-être une courte pause musicale en compagnie de quelqu'un qui est sans doute un des plus grands compositeurs et musiciens tunisiens contemporains et sans doute aussi un des plus connus au-delà des frontières tunisiennes. Il s'agit évidemment d'Anouar Brahem, dont nous écoutons un extrait du dernier album Souvenance, sorti cette année. Le morceau s'intitule January. Janvier, on y est presque d'ailleurs. On se retrouve juste après. Voilà, il est toujours délicat d'interrompre un Ouarbrem en plein vol, mais le temps avance et je voudrais quand même profiter au mieux de la présence de nos deux invités en studio pour poursuivre cette discussion à Habib Kazdagli. Certains de nos auditeurs vous connaissent, notamment parce que vous avez malgré vous défrayé la chronique judiciaire voici plusieurs mois. Vous étiez à l'époque accusé de faits de violence par des étudiants salafistes qui avaient tenté de s'imposer par la force au sein de l'université de la Manouba. Une accusation mensongère contre laquelle vous avez dû vous battre longuement pour défendre non seulement votre honneur, mais aussi pour défendre l'indépendance de votre université face aux pressions religieuses. Alors, la justice vous a finalement donné gain de cause, mais la menace salafiste a-t-elle pour autant disparu de l'université aujourd'hui ?
De l'université, oui, mais malheureusement,
mais pas du pays.
Au contraire. Donc c'est, et ça a montré, au contraire, c'est que ce que nous avons, nous étions un peu, il y avait une longueur d'avance au niveau de l'université, où nous avons vu qu'il y avait la tentative de mise au pas de la jeunesse, et de là, à partir de la jeunesse de la société, avait bien commencé, alors qu'à l'époque, on disait qu'on exagérait, qu'on prenait, etc. Donc, c'était un épouvant, mais malheureusement, au niveau du pays, et puis, évidemment, outre la première préoccupation des Tunisiens qui l'ont exprimé, et j'espère que le gouvernement, nouveau gouvernement va s'atteler à cela, c'est la sécurité. Parce que la sécurité, elle est aussi importante pour les Tunisiens, évidemment, mais pour toute relance économique. Parce qu'ils vivent ce terrorisme-là, sur les frontières tuniso-algériennes, sur les frontières avec la Libye, avec toutes les armes qui ont pu passer durant toute cette période où il y avait réellement de la complaisance officielle. Parce que si on réécoute ce que disait le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, ou bien le ministre de l'Intérieur, qui m'accusait d'être le fauteur de troubles dans tout ce qui s'est passé, bon, évidemment, ça montre que... Mais malheureusement, à l'université, nous sommes encore... c'est-à-dire la Constitution, le fait que les choses se sont encore... Nous sommes outillés, donc nous avons un règlement intérieur et cette résistance a été payante parce que la éveiller les regards sur ce qui nous attendait, mais encore sur le pays, le danger reste réel malgré les avancées au niveau des élections.
J'ai peut-être juste une question de clarification pour nos auditeurs. On a parlé tout à l'heure du parti Ennahda. On vient parler à présent des salafistes. Comment pouvez-vous peut-être décrire l'un et l'autre ? Est-ce que ce sont deux entités qui se recoupent, qui se rejoignent, qui sont totalement distinctes ?
Évidemment, officiellement, le parti islamiste est venu à la démocratie parce qu'il y a 30 ans, il ne croyait pas. De la même manière qu'aujourd'hui, les salafistes ne croient pas à la démocratie, mais force de constater que le parti Ennahda n'a pas coupé réellement le cordon ombilical avec l'idéologie et il reste encore un parti politico-religieux. Donc il ne fait pas la séparation nette. De la même manière, les autres, donc les salafistes, qui sont violents, mais aussi ça leur arrive et puis d'où la collusion, parce que le parti Ennahda a voulu avoir les salafistes comme réserve électorale, et c'est ce que fait le deuxième candidat, le président actuel Marzouki. Il essaie de ramasser c'est-à-dire à la fois les islamistes, les djihadistes et également les ligues fascistes, soi-disant entre guillemets, de protection de la révolution. Donc il essaie de ramasser tout cela parce que son parti, le CPR, n'a eu que 2% au niveau législatif.
Et au niveau il doit donc aller glaner des voix ailleurs.
Il a eu 32% au niveau du premier tour. Donc ils sont venus quelque part. De quelque part, ils sont venus des islamistes, ils sont venus des djihadistes, ils sont venus de ces groupes conservateurs fascistes. Donc voilà, donc le danger est là. Non, mais évidemment, aucune société n'échappe à cela. Donc il faut que les autres forces s'unissent de leur côté.
Signalons pour les auditeurs que nous enregistrons cette émission dans l'entre-deux tours des élections présidentielles. Donc on ne sait pas évidemment quelle sera l'issue de ces élections, mais les deux candidats qui restent en lice, c'est Moncef Marzouki, le président sortant, et d'autre part Béji Caïd Essebsi, le leader de Nida Tounes, ce parti qui est sorti grand vainqueur des dernières élections législatives et dont nous avons déjà parlé en cours d'émission. Nadia Kiari, peu importe qui remporte cette élection présidentielle, l'état de la liberté d'expression sera de toute façon meilleur qu'avant, selon vous ?
Il est déjà meilleur qu'avant. La preuve, je peux m'exprimer, je peux dessiner, je peux donner libre cours à ma critique et à la satire politique, comme tous les Tunisiens. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et même dans les journaux, dans les télés, etc. Les gens s'expriment dans la rue, dans les cafés. Tout le monde s'exprime et critique et remet en question les choses. Ça, c'est une avancée. Par contre, il va falloir maintenant faire une vraie réforme au niveau judiciaire. Il va falloir changer les lois qui datent encore de l'époque dictatoriale. Et tant qu'on ne changera pas ces lois, on sera toujours en danger. Et il y aura toujours cette sempiternelle loi de trouble à l'ordre public qui va nous retomber dessus, comme elle est tombée sur pas mal d'artistes durant les années écoulées, post-révolutionnaires. Donc,
c'est-à-dire que certains pourraient tenter d'utiliser ces anciennes lois pour exercer une pression et limiter la liberté d'expression.
Mais c'est une épée de Damoclès qui pend au-dessus de nous, parce qu'il suffit de tomber au mauvais moment ou alors à un moment où les politiques ont besoin d'un bouc émissaire pour détourner l'attention d'un problème en particulier, d'une affaire de corruption ou autre. Bon, on va dire, tiens, il y a un artiste, on va le mettre sur la sellette et on va détourner l'attention de l'opinion publique.
Qu'est-ce qui est risqué qu'est-ce qui est risqué de faire quand on a un artiste aujourd'hui en Tunisie ?
Ça dépend des périodes. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus tendues que d'autres. Là, par exemple, en ce moment, l'entre-deux-tours est extrêmement tendu. Il y a une sorte d'hystérie collective où les gens défendent leur candidat comme si on était dans un match de foot. Là, on attend la finale. Et c'est assez difficile de critiquer les uns ou les autres parce que tout le monde est dans ses retranchements et il n'y a pas vraiment de dialogue possible, quoi.
Est-ce qu'on risque des procès si on fait des œuvres ou même des dessins en ce qui vous concerne qui pourraient être jugés comme blasphématoires par certains ? Est-ce que ça c'est un risque dont vous tenez compte et qui vous pousse peut-être parfois à l'autocensure ?
Alors, je ne m'autocensure que très très rarement. En fait, c'est pas vraiment d'autocensure. Je me dis que il y a liberté, mais il y a responsabilité. Il y a des périodes où c'est vraiment extrêmement tendu et je me dis que un dessin pourrait mettre de l'huile sur le feu. Donc aucun intérêt. Il passerait quand même peut-être deux semaines après sans aucun problème. Donc il suffit de savoir jauger un peu le bon moment, quoi, pour pouvoir faire passer les choses. Et c'est vrai que j'ai vu ça. Il y a un internaute, Jaber Mejri, qui a pris quand même 2 ans, enfin qui avait pris à la base 7 ans et quelques de prison pour un partage d'une caricature, qui a été gracié mais qui est retourné en prison par la suite. Donc c'est assez dangereux, ça reste dangereux, on est des funambules, quoi.
Et ça peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment de façon tout à fait aléatoire.
Il suffit de pas tomber au mauvais moment, parce que c'est très facile d'avoir un bouc émissaire et d'être comme une... En fait, que ce soit d'un côté un parti qui nous utilise comme bouc émissaire et de l'autre côté le parti d'opposition qui utilise comme une sorte de d'argument électoral.
Bien, Nadia Kiari, Habib Kazdagli, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de nous rejoindre en studio.
Merci.
Et de partager avec nous votre regard sur la Tunisie. On espère pouvoir vous retrouver d'ici quelques mois, quelques années, qui sait, lors d'un prochain passage, pour refaire le point sur l'évolution de la jeune démocratie tunisienne. Voilà, c'est ici que se referme cette édition de Libre Ensemble. La semaine prochaine, vous retrouverez Pilar Arcas au micro pour une émission consacrée aux avatars de Noël, où l'on rappellera notamment les origines païennes de cette fête et ses multiples adaptations dans de nombreuses cultures à travers le monde. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.